Voix Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manilakidze à la présentation de cette édition du mardi 6 avril 2021. Voici d'abord le sommaire. Nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire, le frère du président Ouattara nommé à la défense. Plusieurs morts dans des attaques djihadistes au Mali et dans l'est du Burkina Faso. Barrage sur le Nil, les discussions se sont achevées à Kinshasa sans qu'un compromis ne soit trouvé entre les trois protagonistes. Les discussions s'ouvrent à Vienne en vue de remettre l'accord nucléaire iranien sur les rails. Téhéran salue une déclaration prometteuse de Washington. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le président ivoirien Alassane Ouattara a nommé mardi un nouveau gouvernement, un mois après la victoire de son parti aux législatives. Son frère cadet, Téné Birahima Ouattara, occupe le poste stratégique de ministre de la Défense. Le point avec Abdulrahman Dia.
Téné Birahima Ouattara, élevé au titre de ministre d'État, était déjà ministre de la Défense par intérim depuis le brusque décès le 10 mars du premier ministre Ahmed Bakayoko, qui occupait également le poste de ministre de la Défense. Autre changement notable, Kanja Kamara, une proche du président et pilier du parti au pouvoir, quitte son poste de ministre de l'Éducation nationale pour devenir ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Elle occupe le deuxième rang protocolaire du gouvernement après le premier ministre Patrick Achi, nommé le 26 mars. Le général Vangondo Diomande, un autre fidèle du chef de l'État, conserve son poste de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité dans ce gouvernement qui compte 37 portefeuilles, dont 7 attribués à des femmes, avec peu de changements aux principaux postes. Le nouveau gouvernement aura pour mission de poursuivre la politique de réconciliation nationale. Une de ses premières tâches sera d'organiser le retour attendu en Côte d'Ivoire de l'ex-président Laurent Gbagbo, acquitté définitivement le 31 mars de crimes contre l'humanité par la justice internationale.
Plusieurs villes du Bénin ont été lundi soir et mardi matin le théâtre d'incidents et de saccages à quelques jours de la présidentielle que le chef de l'État, Patrice Talon, semble assuré de remporter. Des groupes allant de plusieurs dizaines à quelques centaines de manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes du centre et du nord du pays, connues pour être favorables à l'opposition où des véhicules du parti pro-Talon ont été saccagés. Mardi matin à Porto Novo, la capitale fédérale, dans le sud du pays, des dizaines de partisans de Sébastien Ajavon, arrivé troisième à la dernière présidentielle en 2016 et vivant en exil, ont invité l'armée à prendre le pouvoir. Les États-Unis encouragent vivement les autorités maliennes à publier un calendrier définitif confirmant les dates du processus électoral et à utiliser pleinement les capacités de soutien électoral de la force de paix onusienne MINUSMA, a déclaré mardi son ambassadrice à l'ONU. Nous devons nous assurer que des élections libres et équitables se déroulent à temps, a insisté Linda Thomas-Greenfield lors d'une visioconférence du Conseil de sécurité consacrée à la situation dans le pays. Un soldat malien a été tué ce mardi dans l'attaque d'un poste militaire à Kona, c'est dans le centre, par des djihadistes. L'armée affirmait que 12 djihadistes ont été tués dans les combats. À Bamako, la correspondance de Mohamed Danyoko.
Après Diafarabé et Mafouné, ces derniers jours, les forces armées maliennes disent avoir pris une nouvelle fois le dessus sur les terroristes à Kona ce mardi 6 avril. Le poste des forces armées maliennes à Kona, dans la région de Mopti, au centre du pays, a fait l'objet d'une attaque armée tôt ce matin. Selon le communiqué publié sur la page Facebook des forces armées maliennes, les FAMA ont vigoureusement réagi. Le bilan pour l'heure est de morts et 4 blessés côté FAMA et 12 morts dans les rangs des terroristes. L'armée malienne affirme avoir aussi récupéré des armes et du matériel de communication dont se servaient les assaillants. On apprend aussi qu'au Burkina Faso voisin, au moins 3 gendarmes et 5 supplétifs civils engagés dans la lutte anti-djihadiste ont été tués hier soir lors d'une attaque contre des unités mixtes dans l'est du Burkina Faso. Un responsable local des supplétifs civils rapporte que l'attaque a été menée par plusieurs dizaines d'hommes à bord de motocyclettes qui ont principalement ciblé une équipe de patrouille à la sortie est de Tanwal Bougou. Mohamed Danyoko, Bamako, VOA Afrique.
Au moins 56 personnes ont été tuées dans des affrontements tribaux qui durent depuis 4 jours à El Geneina, capitale du Darfour Ouest, a annoncé mardi l'ONU. Lundi soir, les autorités ont instauré l'état d'urgence et déployé l'armée au Darfour Ouest en janvier, 2 semaines après la fin de la mission de paix conjointe de l'ONU et de l'Union africaine, MINUAD, au Darfour. Des affrontements similaires avaient fait plus de 200 morts, la plupart au Darfour Ouest. Le Conseil des ministres soudanais a approuvé mardi un projet de loi visant à abroger le boycottage d'Israël en vigueur depuis 63 ans. Khartoum a accepté de normaliser ses relations diplomatiques avec l'État hébreu fin 2020. Aucun accord à l'issue des discussions de Kinshasa entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan sur le barrage de la Renaissance construit par l'Éthiopie, les précisions de Marius Muhunga.
Dans leur communiqué, les participants à la rencontre de Kinshasa se sont limités à exprimer leur profonde gratitude au leadership du président Félix Tshisekedi. Les délégations des trois pays s'étaient réunies pendant 3 jours sous la facilitation du président de la RDC, Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, pour tenter de résoudre la crise née de la construction sur le Nil par l'Éthiopie du barrage de la Renaissance. L'Égypte et le Soudan le considèrent comme une menace pour leur approvisionnement en eau. Le Soudan craint par ailleurs que si l'Éthiopie procède au remplissage complet de ce barrage, cela va affecter ses propres barrages. L'Éthiopie soutient pour sa part que le barrage de la Renaissance est essentiel pour son alimentation en électricité et son développement économique. La ministre soudanaise des Affaires étrangères, Mariam Al-Sadig Al-Mahdi, a déclaré à la presse ce mardi que les décisions unilatérales de l'Éthiopie constituent une violation du droit international. Le ministre éthiopien de l'eau, Selassie Bekele, lui, s'est refusé à tout commentaire sur le dossier.
En RDC, le culte kibangouiste célèbre mardi ses 100 ans en sa ville sainte d'Okamba, en présence du président Félix Tshisekedi. Les kibangouistes ont fait allégeance au chef de l'État investi en janvier 2019 et soutiennent sa nouvelle majorité d'Union sacrée de la nation qui a mis à l'écart son prédécesseur Joseph Kabila. 27 millions de personnes, soit un tiers de la population de la République démocratique du Congo, souffrent d'insécurité alimentaire aiguë, ont alerté mardi l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le Programme alimentaire mondial, PAM. La nouvelle présidente de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, a prononcé mardi un discours de rupture vis-à-vis de son prédécesseur, John Magufuli. Il n'est pas bon d'ignorer le Covid-19, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle allait créer un comité d'experts pour conseiller le gouvernement chargé de faire la synthèse des connaissances mondiales sur le virus et de faire des recommandations. Madame Hassan a également abordé la liberté de la presse, mise à mal sous le premier mandat de son prédécesseur, marqué par un net recul des libertés fondamentales selon des organisations de défense des droits de l'homme. Par ailleurs, la présidente a ordonné un réexamen de la législation et du système fiscal encadrant les investissements étrangers dans le pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Joe Biden va annoncer mardi que tous les adultes américains seront éligibles au vaccin contre le Covid-19 d'ici le 19 avril, en avance d'une dizaine de jours sur l'objectif précédent. Monsieur Biden doit visiter mardi un centre de vaccination en Virginie avant de s'exprimer dans l'après-midi à la Maison-Blanche. L'Iran a salué mardi des déclarations de responsables aux États-Unis qui envisagent une levée des sanctions liées au programme nucléaire iranien. Washington tient à partir de mardi des discussions à Vienne pour tenter de sauver l'accord international sur le nucléaire iranien. Le point avec Rosine Mounezer.
Nous trouvons cette position réaliste et prometteuse, a déclaré Ali Rabi, porte-parole du gouvernement iranien, lors d'une conférence de presse à Téhéran. Monsieur Rabi répondait à une question sur des propos tenus vendredi par Rob Mali, émissaire du président américain Joe Biden pour l'Iran. Selon M. Mali, les États-Unis savent que pour revenir au respect de l'accord de Vienne, ils vont devoir lever ces sanctions qui sont en contradiction avec l'accord sur le nucléaire iranien. Lundi, le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price a déclaré que Washington était prêt à examiner une levée des sanctions envers l'Iran, mais seulement c'est lié à la question nucléaire. l'Union européenne et les États encore partis à l'accord international sur le nucléaire iranien, Iran, Chine, France, Grande-Bretagne, Russie et Allemagne se réunissent à Vienne pour préparer la réintégration des États-Unis.
Vous écoutez Le Monde d'aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la ligne téléphonique signée Nathalie Barge.
Banque africaine de développement a annoncé ce mardi l'octroi d'un prêt de plus de 171 millions de dollars à l'Égypte pour l'amélioration de ses infrastructures ferroviaires. Près de deux semaines après une collision de trains meurtrières dans le sud du pays, le financement sera utilisé pour renforcer la sûreté opérationnelle et accroître la capacité du réseau national de voies ferrées. Le parc global de lignes de la téléphonie mobile au Sénégal s'est établi à plus de 19 millions au quatrième trimestre 2020 selon l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, soit une progression de 2,40% par rapport au troisième trimestre. Orange est en tête avec une part de marché de 55%. Viennent ensuite l'opérateur Free avec 25% et Express au Sénégal avec 19%. Quelques jours après le lancement du réseau 5G de Safaricom, son concurrent Airtel Kenya a annoncé ce mardi avoir mis à niveau certains sites avec des services Internet mobile 5G. La compagnie dit avoir 600 sites à Nairobi, Mombasa et Malindi sur le réseau 5G. Airtel Kenya a lancé la 5G dans 5 comtés et cherche à étendre l'Internet haut débit à 150 sites dans 9 zones urbaines sur 12 mois.
Sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Ligue des champions, ce soir en Europe, le Real Madrid retrouve Liverpool en quart de finale aller dans une réédition de l'affiche de la finale 2018. Cette affiche oppose deux clubs qui additionnent 19 sacres européens, 13 pour le Real, 6 pour les Anglais et reste un classique. Même si cette année, ils apparaissent assez peu dominants dans leurs championnats respectifs, le Real a redressé la barre, restant sur une série de 11 matchs sans défaite. Même chose à Liverpool qui, après une entame catastrophique de l'année 2021, reste sur 3 succès de rang. Dans le second cas, Manchester City se mesure au Borussia Dortmund. L'enjeu est de taille pour Pep Guardiola et City. Franchir le stade des quarts de finale en Ligue des Champions, un cap indépassable depuis l'arrivée en Angleterre de l'entraîneur catalan. Des nouvelles de cette affaire de racisme dans le foot en Espagne. Le défenseur espagnol de Cadix, Juan Cala, a nié avoir proféré une insulte raciste à l'encontre du joueur de Valence, Mukhtar Diakabi, lors d'un match de Liga Dimanche à Cadix. Lors d'une action de jeu avec le joueur Diakabi, je reçois un coup, je proteste comme tout le monde et alors que je cours en arrière, le joueur m'apostrophe, je reviens vers lui, je lui dis « laisse-moi tranquille » et je continue à courir, a expliqué le défenseur de Cadix. C'est à ce moment-là que Diakabi l'aurait accusé d'avoir proféré une insulte raciste. Ce dernier a répété ses accusations dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Le club de Valence a publié un communiqué intitulé « Juan Cala, nous ne te croyons pas », jugeant que le joueur de Cadix a manqué une occasion d'assumer son erreur et de demander pardon. La Ligue a annoncé avoir ouvert une procédure pour faire la lumière sur l'incident. Ici, en NBA, le Jazz se fracasse sur Dallas. Les Nets gagnent le derby de New York. On fait le point des résultats de la nuit dernière avec Bagassi Koura.
Oui, fin de série pour le Jazz. Après 9 victoires de suite, Utah a perdu contre Dallas 111 à 103. Les leaders de la conférence Ouest s'est cassé les dents sur Luka Doncic, passé à un cheveu du triple-double, 31 points, 9 rebonds et 8 passes décisives. Et plus largement sur la dynamique des Mavericks qui viennent d'aligner un 5e succès d'affilée. De leur côté, les Nets sont sortis vainqueurs du derby new-yorkais face aux Knicks 114 à 112, mais vite privés de James Harden blessé. Dans les autres matchs de la soirée, Toronto l'a emporté 103 à 101 contre Washington. Minnesota a battu Sacramento 116 à 106. Cleveland a dominé San Antonio 125 à 101. Et Oklahoma City a subi à domicile la loi de Détroit 132-108.
Merci, Bagasikura.
C'était l'espoir de Yakuba Ouedraogo. Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakidza toujours avec vous. Place au dossier du jour. Au Tchad, des opposants ont lancé en fin de semaine à Paris une plateforme politico-militaire dénommée Conseil National pour le Changement. Ce CNC fait un constat d'échec des 30 années de pouvoir du président Idriss Déby Itno et propose un dialogue inter-tchadien inclusif pouvant conduire à la réconciliation nationale. Le pays se prépare à une élection présidentielle le 11 avril prochain. Pour en savoir davantage sur cette plateforme, Mohamedou Oumfa a joint à Paris son porte-parole, Mahamat Tahel Ali Nanaï.
La situation dans laquelle se trouve notre pays est arrivée pratiquement à un point de non-retour. C'est un pays dans une quasi-faillite après 31 ans de gestion. Et puis, le peuple est dans une crise profonde économique et sociale sans précédent et il n'y a aucune perspective qui se profile à l'horizon. Si l'on ne prend pas garde, si les mouvements politico-militaires et les partis politiques de l'intérieur comme de l'extérieur ne prennent pas leurs responsabilités, notre pays basculera inexorablement dans une guerre totale dont l'horreur dépassera celle de 1980.
Alors pourquoi en ce moment, ce mouvement, on rappelle que dans quelques jours il y aura une élection présidentielle. Est-ce que ce n'est pas un prétexte pour monter les enchères?
Ce n'est pas comme ça que nous le présentons. Nous avons pris acte effectivement de cette période et Déby veut se présenter officiellement, on dit, pour un sixième mandat. Or, il s'agit bien d'un septième mandat parce que après le coup d'État de 1990 est resté au pouvoir jusqu'en 1996, eh bien, les Tchadiens en ont assez. La preuve, ces dernières semaines, les Tchadiens à l'intérieur se mobilisent, se battent et à chaque fois que les Tchadiens sortent dans les rues, l'armée de Déby tire à balles réelles. Il y a des morts et des blessés. Et le dernier en date, c'est l'encerclement du domicile de Yaya Diallo dont la maman a trouvé la mort. Donc les Tchadiens en ont assez. Et nous, avec, nous pensons qu'il ne doit pas se faire élire cette fois-ci.
Qu'est-ce qui fait la spécificité de votre CNC et les mouvements qui existent sur le terrain ou qui ont été créés par le passé avec les mêmes objectifs?
Cette organisation comporte des politico-militaires à l'extérieur, des mouvements de la diaspora, des partis politiques et puis la société civile à l'intérieur et les partis politiques à l'intérieur. On veut obliger Déby à accepter un dialogue inter-tchadien inclusif, pouvant conduire à une réconciliation nationale. C'est la seule clé pour éviter une somalisation de notre pays et sortir de cette crise afin de restaurer les institutions de l'État et créer les conditions nécessaires à des élections transparentes.
Voilà, vous voulez pousser le président Déby à un dialogue, comme vous dites. Qu'est-ce que vous entendez concrètement faire? Quelles sont les actions que vous entendez mener?
Nous sommes en train d'informer même déjà l'opinion nationale qu'il faut continuer les actions à l'intérieur du pays et puis d'alerter l'opinion internationale et les partenaires du Tchad pour qu'eux aussi influencent ce régime pour qu'ils acceptent de se mettre autour d'une table.
Mahamat Tahel Ali Nanaï, porte-parole du Conseil national pour le changement, joint à Paris. En Tunisie, la plupart des jeunes médecins rêvent de faire carrière hors du pays, faute de salaire suffisant pour subvenir à leurs besoins. Les pays du Golfe attirent surtout ces jeunes diplômés formés par l'État tunisien en leur offrant de meilleures conditions salariales. Yakuba Ouedraogo.
Abdel Waheb, médecin urgentiste sur le front contre le Covid-19 en Tunisie, n'a pas été payé depuis des mois. À 35 ans, il se prépare à partir à l'étranger en quête de meilleures conditions de travail, comme la majorité des médecins tunisiens.
J'essaie d'émigrer hors de Tunisie. Pourquoi? Parce que la situation générale en Tunisie n'est pas stable économiquement, socialement et politiquement. Actuellement, le pays peut payer des salaires, mais dans 6 mois, 1 an, on ne sait pas.
Marié depuis 5 ans, Abdel Waheb se prive d'avoir des enfants, estimant ne pas avoir les moyens d'assumer cette responsabilité. Un médecin interne touche 1200 dinars, environ 365 euros par mois. C'est au-dessus du salaire moyen, mais tout juste la moitié du budget minimum nécessaire à une famille avec 2 adultes et 2 enfants pour vivre dignement, selon une étude récente des ONG et un institut de recherche.
Abdelwaheb Djirbi, médecin urgentiste.
On m'a proposé un emploi dans un pays du Golfe avec un salaire 10 fois supérieur à mon salaire en Tunisie. Et les moyens dans le domaine de la santé se développent fortement dans les pays du Golfe.
La proportion des jeunes diplômés s'exilant à la fin de leurs études, principalement vers la France, l'Allemagne ou les pays du Golfe, ne cesse d'augmenter. Le Conseil de l'Ordre des médecins tire la sonnette d'alarme sur le vieillissement des médecins dans le service public. Slim Ben Salah est le président de l'Ordre national des médecins.
Déjà, 2018, on n'était pas loin des 60% de départ. Et fin 2020, pratiquement, on n'est pas loin des 80% des jeunes diplômés qui sont en train de partir.
La Tunisie continue de former chaque année 800 médecins dont les compétences sont reconnues à l'international, mais les infrastructures sont dégradées, le matériel et les médicaments manquent et les effectifs sont parfois insuffisants. Slim Ben Salah, président de l'Ordre national des médecins.
Les pouvoirs publics font avec les moyens qu'ils ont. Ils n'ont pas de moyens. Le budget de la santé, c'est à peine 6% du PIB. Ça a diminué.
Une étude publiée en 2020 par un jeune doctorant en médecine souligne que l'exode de compétences touche tout type de médecins et cadres paramédicaux. À la Direction générale de la santé, les autorités relativisent. Faisal Ben Salah, directeur général de la santé.
Que nos diplômés migrent à l'étranger, on peut le considérer que ça rentre dans une approche macroéconomique du pays d'exportation des services.
D'après le docteur Salah, le coût total de formation des médecins s'élève à plus de 46 000 euros. Selon le syndicat des médecins, les pays embauchant les médecins tunisiens profitent gratuitement d'un capital humain très qualifié.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le procès du policier blanc Derek Chauvin, inculpé du meurtre de l'Africain-américain George Floyd, est entré hier dans sa deuxième semaine. Le chef des forces de l'ordre de Minneapolis a accablé son ancien agent en déclarant qu'il avait violé les règles et les valeurs de la police. Un sujet d'Echassaraille, récit Claire Morizibourg.
Le chef de la police de Minneapolis, Medaria Arradondo, a déclaré au juré lundi que les actions de l'ancien policier Derek Chauvin contre George Floyd n'étaient pas conformes aux politiques du département.
There is an initial reasonableness in trying to just
Initialement, c'est raisonnable d'essayer simplement de le contrôler pendant les premières secondes. Mais une fois qu'il eut cessé d'exercer une résistance, et surtout après que M. Floyd s'est évanoui, continuer à appliquer ce niveau de force à une personne menottée derrière le dos ne relève en aucune manière notre politique, ne fait pas partie de notre formation et ne fait certainement pas partie de notre éthique ou de nos valeurs.
That in no way, shape, or form is anything that is by policy, is not part of our training, and it is certainly not part of our ethics or our values.
Le policier Derek Chauvin est accusé du meurtre de George Floyd après s'être agenouillé sur son cou pendant plus de 9 minutes lors de son arrestation. Lundi, les techniques de prise de cou ou clé d'étranglement lors d'une arrestation ont été expliquées au jury. Medaria Arradondo.
A conscious neck restraint by policy.
Notre technique de clé d'étranglement doit se faire avec une pression légère à modérée. Quand je regarde le document 17, quand je regarde l'expression du visage de M. Floyd, cela n'apparaît en aucun cas être une pression légère à modérée.
Les experts médicaux ont déclaré que le cœur de George Floyd s'était arrêté au moment où il a été transporté à l'hôpital. Le médecin qu'il a reçu aux urgences le 25 mai 2020 a déclaré au juré qu'il pensait qu'un manque d'oxygène avait conduit à la mort de Floyd. Le procureur Jerry Blackwell.
Et docteur, pour vous, à ce moment-là, le déficit en oxygène était-il la cause de l'arrêt cardiaque de M. Floyd?
Le docteur Langenfeld était le médecin urgentiste de garde qui a tenté de réanimer M. Floyd au centre médical du comté de Hennepin.
That was
C'était l'une des possibilités les plus probables. À l'époque, sur la base des informations dont je disposais, c'était plus probable que les autres possibilités.
Et docteur, y a-t-il un autre nom pour la mort par manque d'oxygène?
L'asphyxie est un terme plus commun.
Les avocats de la défense soutiennent que George Floyd est mort de problèmes médicaux en rapport avec sa consommation de drogue, des traces de fentanyl et de méthamphétamine ayant été trouvées dans son sang. Eric Nelson, l'avocat de Derek Chauvin, questionne le docteur Langenfeld.
Et beaucoup de choses provoquent une hypoxie qui peut être considérée comme une asphyxie, n'est-ce pas?
C'est exact.
La mort de George Floyd l'année dernière a déclenché des manifestations internationales contre le racisme et les violences policières envers les Noirs qui ont remis en question la formation des policiers et le préjudice de leurs actions.
La petite ville de Donna, près de la frontière entre le Texas et le Mexique, où de nombreux enfants et familles de migrants sont reçus, retient l'attention des médias dans le récent débat sur l'immigration. Un reportage d'Elizabeth Lee de VOA, relaté par Nathalie Barge.
Joshua Rojas a grandi à Donna et se souvient quand ce quartier n'était qu'une terre agricole.
Nous vivions dans une petite caravane de 20 pieds ici même et nous étions très pauvres. Je me souviens que nous n'avions pas l'électricité, elle avait été coupée.
Le père de Joshua, un immigrant du Mexique, a construit cette maison au fil du temps. Joshua a été l'un des premiers de sa famille à fréquenter l'université. Il a maintenant un bon travail et possède des propriétés locatives. L'installation de traitement des migrants au sud de la ville est une aubaine pour ses affaires.
Quand les agents de la patrouille frontalière doivent venir ici, quand les entrepreneurs doivent venir ici, cela me profite. Mais Airbnb se remplissent, ce qui se passe en ce moment vraiment, je n'ai rien vu de tel.
Ouverte en février, cette installation a mis Donna sous les projecteurs, alors que les États-Unis voient une vague de migrants d'Amérique centrale, y compris des enfants non accompagnés qui traversent la frontière. La boulangerie de Daniel Rocha n'a pas pour autant repris et lui se dit gêné par l'attention que l'on porte à sa ville habituellement calme.
Cela apporte une vue négative sur la petite ville. Cela montre que nous ne pouvons pas gérer la frontière et comment nous traitons les enfants. Je ne blâme pas ce président ou l'ancien, c'est juste notre système d'immigration qui n'a pas été mis à jour. Le blâme est sur le Congrès. C'est au Congrès de s'occuper de la frontière.
Pendant des années, républicains et démocrates au Congrès n'ont pas été en mesure de s'entendre sur la réforme de l'immigration. Eric Uriel connaît de nombreux sans-papiers dans son quartier. Elle estime que pour eux, la vie aux États-Unis n'a pas été facile.
Ils ont des difficultés parce que leur travail est instable et parfois les entrepreneurs en abusent aussi en raison de leur statut. Ils finissent par ne pas payer leur salaire. Ils sont attaqués pour de nombreuses raisons.
Pour cette habitante de Donna, l'administration Biden envoie des messages contradictoires aux migrants.
Les gens voient que cette administration a dit qu'ils seraient les bienvenus, mais on leur dit maintenant de rester dans leur pays. Je pense qu'on devrait d'abord donner la priorité à ceux qui sont déjà ici et ensuite ouvrir les bras à ceux qui veulent venir ici.
Selon un sondage de l'Associated Press Knox Center for Public Affairs Research, 59% des Américains disent que fournir un traitement sûr aux enfants non accompagnés devrait être une priorité et 53% pensent que l'amélioration de la sécurité à la frontière est également prioritaire.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Michel Pierre-Joseph, Joseph Morissin et Lionel Mounavira Gaïma. Eric Manila Kiza a été à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.